Aristote, Politique, Livre 4, Chapitre 13. Sommaire. De l'égalité et de la différence des citoyens dans la cité parfaite. Subordination naturelle des âges divers. Les occupations de la paix sont la vie véritable de la cité. Il faut savoir user convenablement du repos. La culture de la raison doit être le principal objet que l'homme se propose dans la vie et le législateur dans l'éducation des citoyens. Paragraphe 1. L'association politique étant toujours composée de chefs et de subordonnés, je demande si l'autorité et l'obéissance doivent être alternatives ou viagères. Il est clair que le système de l'éducation devra se rapporter à ces grandes divisions des citoyens entre eux. Si quelques hommes l'emportaient sur les autres hommes, autant que, selon la croyance commune, les dieux et les héros peuvent différer des mortels à l'égard du corps, qu'un seul coup d'œil suffit pour juger, et même à l'égard de l'âme, de telle sorte que la supériorité des chefs fût aussi incontestable et aussi évidente pour les sujets, nul doute qu'il ne fallut préférer la perpétuité de l'obéissance pour les uns et du pouvoir pour les autres. Paragraphe 2. Mais ces dissemblances sont choses fort difficiles à constater, et il n'en est point du tout ici comme pour ces rois de l'Inde qui, selon Sylax, l'emportent si complètement sur les sujets qui leur obéissent. Il est donc évident que, par bien des motifs, l'alternative de l'autorité et de la soumission doit nécessairement être commune à tous les citoyens. L'égalité est l'identité d'attribution entre des êtres semblables et l'État ne saurait vivre contre les lois de l'équité. Les factieux que le pays renferme toujours trouveraient de constants appuis dans les sujets mécontents. Et les membres du gouvernement ne sauraient jamais être assez nombreux pour résister à tant d'ennemis réunis. Paragraphe 3. Cependant, il est incontestable qu'il doit y avoir une différence entre les chefs et les subordonnés. Quelle sera cette différence et quelle sera la répartition du pouvoir? Telles sont les questions que doit résoudre le législateur. Nous l'avons déjà dit, c'est la nature elle-même qui a tracé la ligne de démarcation, en créant, dans une espèce identique, les classes des jeunes et des vieux, les uns destinés à obéir, les autres capables de commander. Une autorité conférée par l'âge ne peut irriter la jalousie, ni enfler la vanité de personne. Surtout lorsque chacun est assuré d'obtenir avec les années la même prérogative. Paragraphe 4. Ainsi, l'autorité et l'obéissance doivent être à la fois perpétuelles et alternatives. Et par suite, l'éducation doit être à la fois pareille et diverse, puisque de l'aveu de tout le monde, l'obéissance est la véritable école du commandement. Or, l'autorité, avons-nous dit plus haut, peut être ou dans l'intérêt de celui qui la possède, ou bien dans l'intérêt de celui sur qui elle s'exerce. Dans le premier cas, c'est l'autorité d'un maître sur ses esclaves. Dans le second, c'est une autorité appliquée à des hommes libres. Paragraphe 5. De plus, les ordres peuvent autant différer par le motif qui les a dictés que par les résultats qu'ils produisent. Bien des services réputés exclusivement domestiques sont faits pour honorer les jeunes gens libres qui les accomplissent. Le mérite ou le vice d'une action est bien moins dans cette action elle-même que dans les motifs qui l'inspirent et le but qu'elle poursuit. Nous avons établi que la vertu du citoyen, quand il commande, est identique à la vertu de l'homme parfait. Et nous avons ajouté que le citoyen devait d'abord obéir avant de commander. Nous en concluons ici que c'est au législateur de former les citoyens à la vertu, en connaissant et les moyens de les y mener et le but essentiel de la vie la meilleure. L'âme se compose de deux parties, l'une qui possède par elle-même la raison, l'autre qui, sans la posséder, est du moins capable de lui obéir. À l'une et à l'autre appartiennent les vertus qui constituent l'homme de bien. Cette division, une fois admise telle que nous la proposons, on peut dire sans peine laquelle, entre ces deux parties de l'âme, renferme le but même que l'on doit poursuivre. Car toujours, un objet moins bon est fait en vue d'un objet meilleur. C'est chose non moins évidente dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Et ici, l'objet le meilleur, c'est la partie raisonnable de l'âme. Paragraphe 7. En adoptant dans cette recherche notre procédé ordinaire d'analyse, on peut diviser la raison en deux autres parties, raison pratique et raison spéculative. Par une conséquence nécessaire, la division que nous appliquons à cette partie de l'âme s'applique également aux actes qu'elle produit. Et si l'on pouvait choisir, il faudrait préférer les actes de la partie naturellement supérieure, soit dans tous les cas, soit dans un cas unique, où les deux parties de l'âme seraient en présence. Car en toute chose, il faut toujours préférer ce qui mène au but le plus élevé. Paragraphe 8. La vie se partage, quelle qu'elle soit, en travail et repos, en guerre et paix. Parmi les actes humains, les uns se rapportent au nécessaire, à l'utile. Les autres se rapportent uniquement au beau. Une distinction toute pareille doit, à ces divers égards, se retrouver nécessairement dans les parties de l'âme et dans leurs actes. La guerre ne se fait qu'en vue de la paix. Le travail ne s'accomplit qu'en vue du repos. On ne recherche le nécessaire et l'utile qu'en vue du beau. Paragraphe 9. En tout ceci, l'homme d'État doit régler ses lois sur les deux parties de l'âme et sur leurs actes, mais surtout sur la fin la plus relevée qu'elles puissent toutes deux atteindre. Des distinctions pareilles s'appliquent aux diverses carrières, aux diverses occupations de la vie pratique. Il faut être également prêt au travail et au combat. Mais le loisir et la paix sont préférables. Il faut savoir accomplir le nécessaire et l'utile. Cependant, le beau est supérieur à l'un et à l'autre. Ce sont donc là des directions qu'il convient de donner aux citoyens dès leur enfance et pendant tout le temps qu'ils restent soumis à des maîtres. Paragraphe 10. Les gouvernements qui semblent aujourd'hui les meilleurs de la Grèce, comme les législateurs qui les ont fondés ne paraissent point avoir rapporté leurs institutions à une fin supérieure, ni dirigé leurs lois et l'éducation publique vers l'ensemble des vertus, mais ils les ont inclinées assez peu noblement à celles qui semblent devoir être utiles et plus capables de satisfaire l'ambition. Des auteurs plus récents ont soutenu à peu près les mêmes opinions. Ils ont admiré hautement la constitution de Lacédémone et loué le fondateur qui l'a tournée tout entière vers la conquête et la guerre. Paragraphe 11. La raison suffit aisément à condamner ces principes comme les faits eux-mêmes, accomplis sous nos yeux, se sont chargés d'en prouver la fausseté. Partageant le sentiment qui pousse les hommes, en général, à la conquête en vue des bénéfices de la victoire, Tibron, et tous ceux qui ont écrit sur le gouvernement de Lacédémone semblent porter au nu son illustre législateur, parce que, grâce au mépris de tous les périls, sa république a su se faire une vaste domination. Paragraphe 12. Mais à cette heure que la puissance spartiate est détruite, tout le monde convient que Lacédémone n'est point heureuse, ni son législateur irréprochable. N'est-il pas extraordinaire, cependant, que conservant les institutions de Lycurgue, et pouvant, sans obstacle, les suivre à son gré, elle ait perdu toute sa félicité? Mais c'est qu'on se trompe aussi sur la nature de la puissance que l'homme politique doit s'efforcer de mettre en honneur. Commander à des hommes libres vaut bien mieux et est bien plus conforme à la vertu que de commander à des esclaves. Paragraphe 13. De plus, il ne faut pas croire un État heureux ni un législateur fort habile quand ils n'ont songé qu'aux dangereux travaux de la conquête. Avec des principes aussi déplorables, chaque citoyen ne pensera évidemment qu'à usurper le pouvoir absolu dans sa propre patrie, dès qu'il pourra s'en rendre maître. Ce dont pourtant Lacédémone n'a pas manqué de faire un crime au roi Pausanias, que toute sa gloire ne put défendre. De pareils principes et les lois qu'il dicte ne sont pas dignes d'un homme d'État. Ils sont aussi faux qu'ils sont funestes. Le législateur ne doit déposer dans le cœur des hommes que des sentiments également bons pour le public et pour les particuliers. Paragraphe 14. Si l'on s'exerce au combat, ce doit être non point en vue de soumettre à l'esclavage des peuples qui ne méritent point ce joug ignominieux, mais ce doit être d'abord pour n'être point subjugué soi-même. Ensuite, pour ne conquérir le pouvoir que dans l'intérêt des sujets. Et enfin, pour ne commander en maître qu'à des hommes destinés à obéir en esclaves. Paragraphe 15. Le législateur doit surtout faire en sorte que même ses lois sur la guerre, comme le reste de ses institutions, n'aient en vue que la paix et le repos. Et ici, les faits viennent joindre leur témoignage à celui de la raison. La guerre, tant qu'elle dure, a fait le salut de pareils États, mais la victoire en leur assurant le pouvoir leur a été fatale. Comme l'acier, ils ont perdu leur trempe dès qu'ils ont eu la paix, et la faute en est au législateur, qui n'a point appris la paix à sa cité. Paragraphe 16. Puisque le but de la vie humaine est le même pour les masses et pour les individus, et puisque l'homme de bien et une bonne constitution se propose nécessairement une fin pareille, il s'ensuit évidemment que le repos exige des vertus spéciales. Car, je le répète, la paix est le but de la guerre, le repos est le but du travail. Paragraphe 17. Les vertus qui assurent le repos et le bonheur sont celles qui sont d'usage dans le repos aussi bien que dans le travail. Le repos ne s'obtient que par la réunion de bien des conditions indispensables pour les premiers besoins. L'État, pour jouir de la paix, doit être prudent, courageux et ferme. Car le proverbe est bien vrai. Point de repos pour les esclaves. Quand on ne sait pas braver le danger, on devient la proie du premier attaquant. Paragraphe 18. Il faut donc courage et patience dans le travail. Il faut de la philosophie dans le loisir, de la prudence et de la sagesse dans l'une et l'autre de ces deux situations, mais surtout au milieu de la paix et du repos. La guerre donne forcément justice et sagesse à des hommes qu'enivrent et pervertissent le succès et les jouissances du loisir et de la paix. Paragraphe 19. On a surtout besoin de justice et de prudence quand on est au fait de la prospérité et qu'on jouit de tout ce qui fait l'envie des autres hommes. Il en est comme des sages que les poètes nous représentent dans les îles fortunées. Plus leur béatitude est complète, au milieu de tous les biens dont ils sont comblés, plus ils doivent appeler à leur aide la philosophie, la modération et la justice. Ces vertus, évidemment, ne sont pas moins nécessaires au bonheur et à la vertu de l'État. S'il est honteux de ne point savoir user de la fortune, il l'est surtout de ne pas savoir en user au sein du loisir et de développer son courage et sa vertu durant les combats, pour montrer une bassesse d'esclave pendant la paix et le repos. Paragraphe 20. Il ne faut pas entendre la vertu comme l'entendait la Cédémone. Ce n'est pas qu'elle ait compris le bien suprême autrement que chacun ne le comprend, mais elle a cru qu'on pouvait surtout l'acquérir par une vertu spéciale, la vertu guerrière. Or, comme il existe des biens supérieurs à ceux que procure la guerre, il est évident aussi que la jouissance de ces biens-là est préférable, sans avoir d'autre objet qu'elle-même, à celle des seconds. Paragraphe 21. Voyons par quelle voie on pourra gagner ces biens inappréciables. Nous avons déjà dit que les influences qui s'exercent sur l'âme sont de trois sortes, la nature, les mœurs et la raison. Nous avons aussi précisé les qualités que les citoyens doivent préalablement recevoir de la nature. Il nous reste à rechercher si l'éducation de la raison doit précéder celle des habitudes, car il faut que ces deux dernières influences soient dans la plus parfaite harmonie, puisque la raison même peut s'égarer en poursuivant le meilleur but, et que les mœurs ne sont pas sujettes à moins d'erreurs. Paragraphe 22. Ici, comme dans tout le reste, c'est la génération par laquelle tout commence. Mais la fin de la génération remonte à une source dont l'objet est tout différent. Dans l'homme, la vraie fin de la nature, c'est la raison et l'intelligence, seuls objets qu'on doit avoir en vue dans les soins appliqués, soit à la génération des citoyens, soit à la formation de leurs mœurs. Paragraphe 23. De même que l'âme et le corps, avons-nous dit, sont bien distincts. De même, l'âme a deux parties non moins différentes, l'une irrationnelle, l'autre douée de raison. Elles se produisent sous deux manières d'être diverses. Pour la première, l'instinct, pour l'autre, l'intelligence. Si la naissance du corps précède celle de l'âme, la formation de la partie irrationnelle est antérieure à celle de la partie raisonnable. Il est bien facile de s'en convaincre. La colère, la volonté, le désir se manifestent chez les enfants aussitôt après leur naissance. Le raisonnement, l'intelligence, ne se montrent dans l'ordre naturel des choses que beaucoup plus tard. Il faut donc nécessairement s'occuper du corps avant de penser à l'âme. Et, après le corps, il faut songer à l'instinct, bien qu'en définitive l'on ne forme l'instinct que pour l'intelligence et que l'on ne forme le corps qu'en vue de l'âme.